Et voici le bulletin météo pour 1787 et 1788. Informations météorologiques qui ont leur importance. Les années 1787 et 1788 sont désastreuses pour les récoltes. Grêles, pluies incessantes ont détruit vignes et cultures, fait pourrir en terre les semences, empêché la fenaison, les moissons. L'hiver 1789 est terrible. Les rivières ont gelé, les moulins ne tournent plus, la disette menace dans les campagnes où, faute de fourrage, on doit sacrifier une partie du bétail. Les réserves de grains sont au plus bas. Pourtant, le 1er janvier 1789, une bonne nouvelle arrive. Le Conseil du roi s'est prononcé pour le doublement des députés du tiers-état. Le tiers-état aura donc autant de députés que la noblesse et le clergé réunis. La France, en liesse, donne au roi Louis XVI le titre de « Père du peuple, restaurateur de la liberté française ». Oui, mais le vote demeure un vote par ordre. Et le résultat sera toujours 2-1 en faveur de l'équipe noblesse-clergé.
Le siècle de la pensée. On pense beaucoup tout au long du XVIIIe siècle. On sent bien que la monarchie absolue décline, que les guerres ne laissent que défaite et amertume. On sait que l'Angleterre ne cesse d'étendre sa domination et que la Prusse devient une puissance menaçante. Tout cela est commenté dans les salons, les cafés ou les clubs. On y refait le monde, on imagine une autre société moins hiérarchisée, moins figée, plus juste surtout. Mais la vieille noblesse s'accroche à ses prérogatives. Les parlements cherchent à servir leurs intérêts. On écoute le discours des penseurs dans le salon des dames, celui de Madame du Deffand qui reçoit Fontenelle, le vulgarisateur des sciences, Marivaux, le délicat aquarelliste des passions, Montesquieu, l'esprit libéral et rigoureux, le sceptique et cynique à la fois, l'utopiste, le sociologue avant la lettre. On peut aussi y être reçu chez Madame Geoffrin, rue Saint-Honoré, où font halte les mêmes, ou bien encore d'Alembert, le spécialiste des équations différentielles. Chez Julie de l'Espinasse, on croise Turgot, Condillac qui réfléchit sur le langage, Condorcet. Et puis, on lit Voltaire, on lit Rousseau. Le premier est une gloire sulfureuse qui a déstabilisé les adeptes de la tradition, avec son dictionnaire philosophique, brocardé la justice, proposé des solutions à l'anglaise, bref, il a clairement souhaité la révolution. Le second a rêvé une société égalitaire, misant sur la bonne volonté collective. Il a proposé une nouvelle façon de transmettre le savoir, et même un dieu tout neuf, l'être suprême. Denis Diderot publie une encyclopédie des savoirs que tous les esprits curieux dévorent avec gourmandise, découvrant que les voies du salut s'accommodent mieux de la science que de la conscience. Beaumarchais, quant à lui, fait dire à son Figaro « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. » Et surtout, à l'adresse de l'aristocrate, « Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. » C'est dire combien, en ce XVIIIe siècle où le peuple souffre de la domination écrasante des grands, où la bourgeoisie n'en peut plus de l'arrogance des pouvoirs qui grincent dans leurs vieux cadres, oui, combien l'esprit révolutionnaire s'est développé dans le cocon de la pensée, prêt à l'envol dans le printemps de l'espoir, celui de 1789 par exemple.